J'aimerais aussi remercier toute l'équipe organisatrice de cette journée d'études pour nous offrir justement la possibilité de nous retrouver, de partager nos réflexions sur le sujet de la honte. Donc, ma communication va porter justement sur la honte suicidaire dans le théâtre contemporain et notamment dans cinq pièces en particulier. Et là, je vais essayer de partager l'écran. Mais en fait, côté technique, attendez, je suis sur un Mac, donc ça me demande des permissions supplémentaires pour le partage de l'écran. Alors, je vais parler.
Normalement, en bas de l'écran, il y a l'option partager l'écran et c'est accessible à tout le monde.
Mais là, il me demande d'aller dans les paramètres de sécurité et confidentialité et puis de redémarrer le Zoom. Donc, je suis désolée, je vais vous quitter
Est-ce que...
pour 30 secondes. Il y a mon petit chat que vous entendez peut-être. Bon, c'est 15 secondes, je vous rejoins.
D'accord. Je t'entends pas, Ève. C'est comment? Vous entendez Ève?
Je n'entends pas du tout, Eve.
Je t'entends pas, Ève. Peut-être que tes écouteurs n'ont pas de micro.
Ah, là voilà, parfait.
Bienvenue alors.
Merci. Alors, vous voyez bien. Je vais vous parler de la honte suicidaire dans cinq pièces contemporaine européenne. Donc, il y a deux pièces anglaises, La sourde oreille de Torben Betts et Anatomy of a Suicide d'Alice Birch. Puis deux pièces françaises, Le fils de Marine Guyenne et Le monologue de l'exil d'Ayad Fayez. Là, je ne suis pas du tout certaine si je prononce bien les noms. Et finalement, la pièce d'un auteur danois, Christian Lohlig, Service suicide. Et je vais donc d'abord définir la honte suicidaire et parler des possibilités de sa réparation. Puis, non, mais laisse. Je suis désolée, avec les animaux, c'est un peu compliqué. Donc, je vais d'abord définir la honte suicidaire et parler des possibilités de sa réparation, puis voir comment la honte est mise en scène dans le théâtre contemporain, donc dans le corpus d'études. Et enfin, interroger la manière dont le dispositif théâtral permettrait de réparer la honte. Et donc, pour commencer, j'aimerais proposer une définition théâtrale de la honte, et plus précisément de la honte suicidaire, c'est-à-dire de la définir à partir des mécanismes de dialogue. Donc, de fait, la honte est dialogique par son essence, parce qu'elle se construit nécessairement dans le cadre d'un dialogue, réel ou imaginaire, et compris dans le sens large du terme, car elle surgit, comme l'a montré par exemple Jean-Paul Sartre, par rapport et dans le rapport au regard de l'autre. Et la psychanalyse à ce propos souligne que la honte surgit du conflit intime à l'intérieur de la psyché. Elle survient lorsqu'il y a un décalage entre le moi et le moi idéal. Et ce moi idéal est forgé par rapport à la norme familiale, sociétale et ainsi de suite. Et donc, il s'agit toujours de l'échange entre le moi et l'autre. Et donc, sur ce point, on peut essayer de comprendre la honte à partir du dialogue théâtral. Donc, pour commencer, voici un extrait de La sourde oreille de Torben Betts. Donc, cette pièce met en scène la famille d'un jeune militant écologiste suicidé. Et cette famille se réunit après son enterrement. Et donc, cette pièce illustre l'impossibilité de la communication au sein de cette famille, car les membres de la famille n'arrivent pas non seulement à parler de la mort de ce jeune homme, mais aussi ils n'arrivent pas à se parler tout court. Et donc, cette pièce se fonde sur ce qu'on pourrait appeler en anglais, je pense, uneasy situations, c'est-à-dire les situations gênantes où le gêne ou l'embarras découle du fait que les répliques des personnages ne trouvent pas de réponse attendue ou normale. Donc, c'est comme dans cet exemple, il y a Derrick qui entre sur scène et qui dit aux autres, pour faire baisser un peu la tension, « La lune est magnifique, je pense que nous n'allons pas tarder à tous nous transformer en loup-garou. » Donc, il imite le hurlement d'un loup. La réponse est un silence gêné. Donc, au lieu de rire général qui sinon devrait survenir. Et donc, la réplique se révèle ainsi malvenue ou plus précisément déplacée ou décalée. Et je pense d'ailleurs que nous pouvons tous trouver dans notre expérience une multitude de telles situations embarrassantes où l'on éprouve une petite piqûre de gêne ou de honte à cause d'une réplique mal placée. Mais pourtant, il s'agit là de l'embarras, il ne s'agit pas tout à fait de la honte. Et pour en arriver au suicide, les répliques et même les dialogues ratés ne suffisent pas. Donc, il faut vraiment que l'embarras ou le gêne gagne en puissance et en la durée en devenant ce que l'on pourrait appeler la honte blanche, qui n'est pas situationnelle, mais existentielle. Et dans les pièces de mon corpus, lorsqu'il s'agit de la honte suicidaire, de la honte qui mène au suicide, c'est l'existence entière de l'individu qui se voit décalée par rapport à la famille, à la société ou à la vie. Donc, métaphoriquement parlant, c'est comme si l'existence entière devenait une réplique déplacée que l'on n'accepte pas ou n'entend pas au sein du dialogue. La honte d'exister provoque donc par conséquent la désintégration du sein du groupe et par cela même pousse au suicide. Mais à côté de cette honte suicidaire, il y a aussi ce que l'on pourrait appeler la honte post-suicidaire, c'est-à-dire la honte qu'éprouvent les proches de celui qui s'est tué. Et cette honte repose également sur le décalage par rapport à l'idéal. Et elle se mêle à la culpabilité, car il s'agit en plus d'avoir manqué son devoir. Donc cela dit, dans l'idéal et au regard de la société, les proches du sujet suicidaire auraient dû empêcher son suicide, ce qu'ils n'ont pas fait. Et ainsi, les parents d'un enfant suicidé, toujours au regard de la société, ne peuvent plus jamais se considérer ou être considérés comme les parents parfaits. Et maintenant, on peut se demander comment réparer ces deux types de honte. Dans les deux cas, a priori, il s'agirait de supprimer le décalage fondateur. Et pour la honte d'exister, il y a grosso modo deux possibilités pour le faire. Donc, la première, c'est justement le suicide, qui supprime radicalement le décalage devenu insupportable. Mais la seconde, en revanche, plus positive, serait l'acceptation ou la reconnaissance de ce décalage comme étant parfaitement normal par l'autre, ce qui est pourtant compliqué, car il faudrait que cette acceptation soit inconditionnelle. Donc, pour en donner un exemple concret, le fils de Marine Guyen met en scène une mère profondément religieuse qui découvre l'homosexualité de son fils. Et sur le conseil d'une amie, elle tâche de parler avec lui, de lui montrer qu'elle l'accepte tel qu'il est, mais leur dialogue tourne très mal. Donc, non seulement la mère dit « ça » pour faire référence au petit ami de son fils, ce qui est quand même très humiliant et très offensant même, mais aussi elle l'invite à rejoindre le mouvement contre le mariage gay pour, je cite, « expier ses péchés, car le Christ est miséricordieux ». Et donc, il n'est pas étonnant que cette acceptation, laquelle de fait n'est rien d'autre qu'une humiliation déguisée, ne fait qu'empirer les choses. Suite à ce dialogue, le fils s'empoisonne. Et donc, pour ce qui est de la réparation de la honte post-suicidaire, le décalage qui la fonde, a priori, ne pourrait être supprimé que par le fait de remplir son devoir envers celui qui s'est suicidé, c'est-à-dire le retenir sur un certain plan du suicide. Et il semblerait que c'est impossible, car les morts ne parlent pas, et la mort a été réversible, et néanmoins, c'est ici que le théâtre peut intervenir, tout en permettant d'établir le dialogue posthume entre les morts et les vivants. Donc, je passe à ma seconde partie. Donc, je vais dire d'abord deux mots sur la constitution du corpus. Donc, j'ai choisi mes textes un peu par hasard. J'ai tapé le suicide dans le moteur de recherche sur le site théâtrecontemporain.net et parmi les résultats, j'ai retenu les pièces qui ont été jouées et publiées depuis l'an 2000 et dont la description témoignait qu'elles pourraient comporter au moins un suicide effectif. Néanmoins, en étudiant ces textes par la suite, j'ai été amenée à constater qu'en ce qui concerne le suicide et la honte qui l'accompagne, une différence très nette se profile entre les pièces dialoguées et les monologues dramatiques. Et donc, dans les pièces dialoguées qui sont fondées sur le dialogue plus ou moins classique entre les personnages fictionnels, le suicide et la honte qui l'accompagne relèvent très clairement du non-dit et de l'irreprésentable. Donc, dans La sourde oreille de Torben Betts, que j'ai déjà cité, le suicide du jeune militant écologiste n'est explicitement évoqué que dans la description de la pièce. Et dans la pièce elle-même, les personnages n'en parlent presque pas et en quelque sorte, le lecteur est obligé de deviner de quoi il s'agit, pourquoi la famille s'est réunie et qui est mort. Et qui est cet homme qui est mort, bon, pourquoi tout se passe. Et il en va de même pour Anatomy of a Suicide d'Alice Birch. Donc, cette pièce met en scène l'histoire de trois générations de femmes, de la mère qui se suicide, de sa fille qui termine également par se donner la mort, et de sa petite fille qui arrive enfin à échapper à cette malédiction familiale. Or, si l'on voit dans l'espace scénique deux suicides effectifs, on n'en parle quasiment jamais. Donc, circonstance qui est pour le moment étonnante vu le titre de la pièce. Et de surcroît, le spectateur ignore parfaitement et la raison pour laquelle les personnages se suicident ou ne se suicident pas, et l'effet que leur suicide exerce sur leurs proches. Donc, on peut supposer dans ce cas que le suicide de la mère conditionne le suicide de sa fille, mais ce n'est jamais confirmé par le texte. Et donc, de même, s'il y a la honte suicidaire ou post-suicidaire, elle ne transgresse jamais la barrière du non-dit. Et dans les deux cas, le suicide et la honte jettent simplement leur ombre sur la famille en les empêchant, de communiquer, de tenir un dialogue fonctionnel. Et comme pour la sourde oreille, les dialogues d'Anatomy of a Suicide s'avèrent pour la plupart gênants ou embarrassants. Mais les monologues dramatiques, en revanche, dans la mesure où ils ouvrent sur l'espace intime du personnage et n'impliquent pas la présence de l'autre, c'est-à-dire la présence du jugement de l'autre, permettent de parler très librement du suicide et de la honte. Donc, le fils que j'ai déjà évoqué est de fait le monologue de la mère qui s'interroge sur les raisons du suicide de son fils et essaie de comprendre son rôle à elle dans cette histoire en la reconstituant étape par étape dès le départ. Et dans son monologue, la mère exprime véritablement ce dont elle ne peut pas parler selon ses propres dires, ni à son mari, ni même au Christ. Et sur un autre plan, le monologue dramatique peut également ouvrir la possibilité de dialoguer avec le suicidé. C'est notamment le cas du monologue de l'exil d'Ayad Fayez, où l'auteur, qui utilise d'ailleurs son nom propre, qui parle en son nom propre, s'adresse à son ami de longue date, d'origine iranienne, émigré en Europe, qui s'est suicidé en se jetant du cinquième étage puisqu'il n'a pas été capable, après des années de recherches, de trouver sa terre natale ou son chez-soi. Et ce monologue, qui est de fait le dialogue avec un mort, même si le mort reste silencieux, bien évidemment, est une tentative de reconstitution. Donc, le narrateur tente de reconstituer la personnalité de son ami, leur amitié et les circonstances précises du suicide pour mieux comprendre ce dernier. Et donc, la reconstitution, cette reconstitution permet à l'auteur de conclure que le suicide de son ami, l'acte qu'il considère d'ailleurs d'un regard admiratif, était inévitable. Donc, je cite, c'est un extrait plutôt vers la fin du monologue. « Tu étais accablé par la vie, je suis accablé par ta mort. Après tout, peut-être mettais-tu la barre si haut qu'il n'était pas possible de te réconcilier avec un pays natal, quel qu'il fût. » Et enfin, la forme du monologue dramatique permet également de donner la parole aux morts. C'est le cas du service suicide de Christian Lolic. Dans la première partie de ce texte, qui est inspiré de faits et de documents réels, le catalogue des suicides, ce sont les morts eux-mêmes qui parlent de leur suicide, ce qui permet en fait d'accéder à l'inaccessible, à la mort qui est vue et vécue par le suicidaire lui-même et à la vie après la mort. Et donc, sur ce point, on peut souligner que dans l'après-mort, les morts sont heureux, car si leurs suicides sont le plus souvent motivés par le sentiment de ne pas être à la hauteur ou de clairement gêner l'existence des autres, Dans la mort, le mal de l'humiliation et la honte d'exister disparaissent. Donc, juste pour donner un exemple, c'est l'extrait du monologue d'un petit garçon que sa mère voulait en fait, dont sa mère voulait en fait se débarrasser. Et il raconte l'un de ses rêves. Alors, une nuit où j'avais fait plein de rêves, j'ai rêvé que j'étais mort. J'étais couché comme ça sans bouger du tout et je me regardais d'en bas. Et puis, je suis allée voir les autres à l'école pour leur dire que ça ne m'avait pas fait mal et que maintenant, j'étais mort. Et puis, je me suis couchée par terre, comme ça. Ils avaient plus qu'à me piétiner. Alors, Sandra, elle a craché. Et Sophus, lui, il s'est même assis sur ma tête. Et ça ne m'a pas fait mal. Oui, le mal de l'humiliation, la honte ne sont plus présentes dans la mort. La mort est vraiment une délivrance. Et c'est ce que nous montre la première partie de cette pièce, tandis que la seconde partie de cette pièce est plutôt sociocritique. Donc, elle met en scène cette fois-ci un dialogue imaginaire entre un candidat au suicide et deux employés de l'Exit Society qui proposent un éventail large de suicides dans le style du magasin des suicides de Jean Telet. Et donc, le candidat au suicide demande à être euthanasié car il ne supporte pas de vivre dans la société où il ne sera jamais à la hauteur. Et voici un petit extrait de ce dialogue également. Donc, le candidat au suicide A, il dit « Je ne supporte pas de vivre dans une culture où tous les gens doivent être de petits succès ambulants, où personne ne doit perdre ni demander de l'aide. Mon CV est bourré d'échecs. Je me suis baptisé fiasco et là, je n'ai plus envie de jouer le rôle. Je voudrais tellement me réveiller et sortir de ce putain de cauchemar parce que je ne guérirai jamais. » Donc, l'employé de l'Exit Society lui répond « Yersin et moi avons analysé votre profil psychologique. Nous n'avons aucun doute. Vous êtes un être défectueux dont l'absence ou l'élimination ne peuvent que profiter à tous. » Et donc, il lui accorde son suicide. Et de fait, on voit que le service suicide insiste assez cruellement sur le fait que la mort volontaire est un moyen très efficace de réparer la honte d'exister. Mais ça peut avoir un effet bénéfique tout de même, j'y reviendrai vers la conclusion. Et enfin, dans la troisième partie de ce texte, la parole est donnée aux survivants, qui, comme dans le texte de Fayet, s'adresse aux morts de la première partie, et le dispositif fictionnel leur permet dans ce cas de dire aux morts tout ce qu'ils n'ont pas eu le temps ou le courage de leur dire pendant qu'ils étaient encore en vie. Et le service suicide propose donc sur un certain plan un tableau complet du suicide contemporain qui est motivé par l'impossibilité de jouer un rôle imposé par la famille ou la société, mais aussi de la honte qui l'accompagne, tandis que l'ensemble des monologues dramatiques que nous avons vus permettent paradoxalement de faire dialoguer les morts et les vivants et ouvrent par cela même la voie à la réparation de la honte suicidaire ou post-suicidaire, donc sur laquelle je vais m'arrêter pour terminer. Donc, cela dit, les monologues de Nguyen et de Fayez mettent en scène une situation où le proche d'un suicidaire procède à la reconstitution narrative du passé dans le but de comprendre le suicidaire et son acte. Si cela ne supprime pas complètement le décalage et la honte introduits par la mort, irréversible, cela pourrait les atténuer sensiblement, car ces monologues, somme toute, offrent la possibilité de remplir son devoir envers le mort. Donc, de fait, au sein de ces monologues, les personnages acceptent d'une façon inconditionnelle les souffrances que le suicidaire a dû vivre. Et donc, par conséquent, il accepte et répare sa honte d'exister, fût-ce post-mortem. Et sous toute réserve, on peut également imaginer que ces monologues pourraient produire un effet bénéfique à un lecteur ou sur un spectateur qui aurait vécu une situation pareille et qui, en s'identifiant à la situation représentée, pourrait être amené à une sorte d'expérience cathartique. Le monologue se révèle dans ce cas une sorte de rituel de guérison, car le suicide et la honte qui l'accompagnent s'y voient resituer dans le champ du disciple. C'est-à-dire que le théâtre, par les moyens qui lui sont propres, leur rend leur normalité. Et par cela même, il permet d'abandonner, de sortir du paradigme de la honte et de l'indicible en faveur de celui de la compassion et d'une parole profonde et sérieuse. Et donc de la compassion envers les morts, envers les vivants et par le biais de l'identification envers soi-même. Et sur un autre plan, ces œuvres dramatiques pourraient aussi sensibiliser le spectateur ou le lecteur à la honte suicidaire ou à la honte d'exister, en lui montrant ouvertement les raisons qui peuvent y mener. Cela concerne surtout, il me semble, le service suicide de Lolik, parce que d'une part, ce texte indique très clairement que la honte d'exister qui peut mener au suicide est profondément enracinée dans l'organisation de la société contemporaine. Donc, si la honte surgit, comme je l'ai dit au début, du conflit entre le moi et le moi idéal, la société néolibérale nous impose justement une culture où tous les gens doivent être de petits succès ambulants, donc des robots ultra-productifs qui ne connaissent pas la fatigue ni la souffrance, c'est-à-dire qu'on nous impose un idéal a priori impossible à atteindre, et sur un certain plan, à défaut de refuser consciemment ces normes, on est condamné à avoir honte d'exister, même si sur un plan inconscient. Mais il est plus important que le service suicide, en outre de critiquer la société, donne la parole à la fois aux morts et aux vivants, pour montrer que, de fait, ce n'est que dans la mort ou face à la mort que nous arrivons à dire les uns aux autres des choses véritablement importantes. Alors que c'est l'absence de la reconnaissance ou de l'acceptation par l'autre qui est toujours sous-jacente à la honte d'exister, peut-être que la solution la plus simple pour y remédier serait simplement de se parler ouvertement, comme si l'on était déjà face à la mort. Voilà, je vous remercie de votre attention.